Solution des ligues fascistes, je conservais de fidèles adversaires à gauche et je n'avais désormais que des ennemis à droite. Les cheminées des aciéries s'éteignent et c'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Gratfouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la vie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Dans ce Canu Info du jeudi 15 décembre. J'étais pas à l'antenne?
Je crois que c'est ça.
Ah, vous avez donc peut-être reconnu mon ami Jean-Yves qui
animera
le Canu Info ce soir avec moi, puisque Laurent a décidé de nous abandonner sauvagement. Donc je vous avais annoncé pour cette semaine la venue d'Acrimet 69. Et ben en fait non, on les retrouvera la semaine prochaine. Hein, ça ne veut pas dire qu'on a annulé. Nous avons juste souhaité vous faire un cadeau pour Noël, c'est-à-dire accueillir nos amis qui font de la critique de médias. On aime bien quand ils viennent. Ce soir, nous allons vous parler de plein de choses. On ira en Corée du Sud, on ira s'intéresser à Madame Park et à sa destitution. Nous parlerons des barbares. Vous savez, dans cette émission, les barbares, ce sont les États qui assassinent, qui pratiquent la peine de mort. Nous parlerons un petit peu de religion. Et oui, Laurent n'est pas là, mais Jean-Yves va prendre la suite. Nous parlerons un petit peu aussi de morale. Et puis, nous aurons les profiteurs de la semaine avec Monoprix et puis William Sorin, hein, la grande saga. Mais pour commencer, j'aimerais dire un petit mot de notre camarade René Pierre qui nous a quittés. Il est décédé il y a quelques jours. On n'était pas de la même génération avec René Pierre, mais c'était quelqu'un qui vous jugeait pas sur votre âge, sur votre genre ou sur le look que vous pouviez avoir, mais bien sur vos pratiques. Il faisait partie du paysage militant lyonnais, quelqu'un que moi j'ai toujours vu dans les manifs et les rassemblements, quelqu'un qui manquait jamais de venir nous saluer justement pendant ces moments militants. Il se tenait toujours au courant des luttes, des histoires, des organisations. Avec Laurent, c'était les discussions antinucléaires, avec moi peut-être un peu plus le rouge et noir et le syndicalisme. Quand nous avions lancé la campagne de dons pour Radio Canu, tout de suite il était venu nous poser des questions, tout de suite il avait proposé de faire un papier dans le canard de l'OCL. Voilà, c'était quelqu'un qui se sentait toujours concerné par les luttes des uns et des unes et des autres. Donc voilà, je voulais faire un dernier salut. Je lui dis pas adieu parce que c'est un terme que j'aime pas, mais voilà, camarade, c'est fini. Mais il y a plein de sujets dont on ne va pas vous parler ce soir. On ne vous reparlera pas de la réduction, de la reconduction de l'état d'urgence. Hein, je crois que ça t'a touché, toi, un petit peu, Jean-Yves.
Non, à peine.
À peine. On ne va pas revenir non plus sur cette circulation alternée qui va être remise en place à Paris. Bah oui, hein, ça, on remet les bagnoles. Bah non, la pollution, elle revient. C'est pas si simple. On ne vous parlera pas non plus de Madame Lagarde, que nous saluons bien. Hein. Nous encourageons les autres à lui tomber dessus. A priori, c'est un peu ce qui se passe quand même. Depuis le début, hein, elle se fait toute petite. On ne parlera pas non plus de Monsieur Wauquiez et de sa belle crèche.
Oh.
Vous savez ce que nous pensons de crèches dans ces lieux publics de la République française, hein, ça nous embête un petit peu quand même. On parlera pas non plus de la reculade de Monsieur Fillon sur la sécurité sociale, hein, parce que ça aussi c'était quand même drôle, hein, il faut le dire quand même. On vous parlera pas non plus de Monsieur Valls, Manuel Valls, qui souhaite supprimer purement et simplement, a-t-il expliqué, le 49-3. Ça, moi, je rigole. Mais là, je rigole.
Et il prévoit même de prendre le 49-3 pour faire passer le fait d'enlever le 49-3. Ça devient complètement
ça va être sympa, moi, je pense, cette présidentielle. Oui. Toi, tu voulais me dire un petit mot sur Monsieur Cazeneuve, hein, dans le... Le groupe un peu quand même. Quoi.
Ouais, parce que il a succédé justement à ce Manuel Valls.
Quelle succession ça va être?
Bah oui, quelle belle succession, évidemment. C'est juste parce que il a donc été interpellé, Monsieur Cazeneuve, pendant les questions au gouvernement, etc. Et il y a un député qui lui a demandé, mais enfin, Notre-Dame-des-Landes, qu'est-ce que vous allez faire? Et Monsieur Cazeneuve, très serein, a dit qu'il cherchait à une évacuation avec méthode. Voilà. Hein, l'idée, c'est évidemment de faire respecter cet état de droit, même quand le droit n'est pas forcément le meilleur. Hein. Mais voilà, rien ne change, en fait. C'était juste pour relever ça, je crois.
Je ne vais pas non plus détailler les belles nominations de M. Trump. Parce qu'on a quand même le PDG d'ExxonMobil, Rex Tillerson, hein, chef de la diplomatie, le mania du fast-food, milliardaire, qui déteste les syndicats et les travailleurs. Andy Putzer, qui devient donc secrétaire d'État au travail. On ne parlera pas plus longuement non plus de Steven Mnuchin, qui est au Trésor, l'ex-banquier de Goldman Sachs. On ne parlera pas de Tom Price à la santé, hein, lui qui est anti-avortement, et on ne parlera pas non plus en détail de Wilbur Ross, qui est au commerce et qui est nommé le roi des faillites. Ça promet, ça promet. Ah bah, chacun sa merde, je vous le dis, chacun sa merde. Alors, en Ouzbékistan, ils aussi, ils ont leurs petits soucis. C'est vrai qu'on ne vous en a pas non plus bien parlé, je ne vais pas m'étendre sur le sujet non plus aujourd'hui, mais sachez que le dimanche 4 décembre, les Ouzbéks sont allés voter. Oui, pour de vrai, enfin non, pour de faux. Ils ont donc élu un nouveau président et c'est une grande surprise. C'est le successeur désigné, Premier ministre depuis 2003, qui assurait déjà la présidence par intérim, qui a été élu, Monsieur Mirzoyev. Alors, la grande question était de savoir est-ce qu'il allait faire mieux que les 91% de Monsieur Karimov, hein, je vous rappelle l'ancien chef dictateur président de l'Ouzbékistan. C'était ça quand même, la grande question. Les parieurs étaient mobilisés sur la question. Alors, il a remporté 88,61% des voix. Un petit peu raté quand même, mais c'est presque ça, avec un taux de participation de près de 88% tout de même. Hein. Belle démocratie, l'Ouzbékistan, donc la continuité du régime est bien bien assurée. Et puis du côté d'Alep, c'est bien, en France on a fait un super geste, hein. On a éteint la tour Eiffel, je claque. Bon, faut dire qu'en même temps, ils sont en grève, hein, les travailleurs à la tour Eiffel, donc ça tombe bien, il n'y a personne. Je veux dire, on pouvait l'éteindre. Donc ça, ça a changé évidemment la face du monde et de l'univers tout entier. Pendant ce temps, Monsieur Bachar al-Assad, lui, se félicite de la victoire de ses troupes à Alep. Ouh, c'est lui tout seul qui a gagné. C'est un peu ça, finalement, quand on le lit dans le texte. Et puis, il nous explique que les Syriens ont écrit l'histoire grâce à cette bataille et que ça aussi, il le dit, ça va changer la face d'Alep, la face de la Syrie et la face du monde. Il y a des gens dans ce pays, il y a des gens dans les autres pays qui ont tous de grands, grands, grands projets pour nous. Il va falloir commencer à s'inquiéter peut-être. Mmh. Moi, je vous le dis. Alors, un autre pays, on va commencer par ça, dans un sujet plus détaillé, c'est la Corée du Sud, où je souris parce que franchement, c'est pas drôle tous les jours. Bon, là, il y a quand même des gens qui sont descendus dans la rue, et puis ils sont descendus par millions, et puis ils ont fait ça tous les samedis. Et ils ont beaucoup insisté pour que Mme Park, la présidente, soit virée. Donc, ça a été fait vendredi dernier. La destitution a été votée par l'Assemblée sud-coréenne, par 234 voix contre 56. On peut dire quand même qu'il y a un certain consensus hein, dans cette affaire. Elle avait un petit peu tout le monde contre elle. On vous en avait déjà parlé. Alors, c'est une motion hein, qui a été adoptée. Cette motion l'accuse de violation de la Constitution, de délits pénaux, d'échec à protéger le peuple, de corruption et d'abus de pouvoir. Tout ça aussi qu'une partie, en plus de ce que je suis en train de vous lire. Alors, elle va conserver ses pouvoirs exécutifs. Elle va être privée, excusez-moi, de ses pouvoirs exécutifs, mais elle va conserver son titre. Il faut savoir que en Corée du Sud, être président, c'est avoir tous les pouvoirs. Hein, le Premier ministre, il sert à rien. Il est de côté, c'est juste là pour avoir des amis. En fait, c'est vraiment, on tient tout dans ses mains quand on est président, en l'occurrence. Alors là, il faut savoir ce que va penser la Cour constitutionnelle de tout ça. Est-ce qu'elle va valider ou non la motion? Elle a 6 mois pour répondre. C'est un peu ce que craignaient aussi les opposants, c'est que tout ça dure et qu'elle puisse aller jusqu'à la fin de son mandat, hein, qui est bientôt. Alors, ça risque de quand même pas passer, parce que il y a quand même une grosse mobilisation au niveau de la rue, mais aussi au niveau politique. Il faut savoir que même les médias conservateurs sud-coréens l'ont lâché, donc elle est dans une position dangereuse. Elle pourrait avoir de gros soucis judiciaires par la suite. Donc on va devoir attendre pendant 6 mois pour savoir si la Cour constitutionnelle valide ou non la motion, et il y aurait donc une nouvelle élection présidentielle au terme de cette décision. Alors pour l'instant, c'est un Premier ministre qui s'appelle Kwang Kyo-han, qui est un ancien procureur spécialiste des questions de sécurité. Il n'a jamais été élu. Il paraît assez austère, très conservateur et pas franchement drôle. Oui. Un autre genre. Hein. Voilà. Alors, donc je vous rappelle, hein, le scandale, il est parti de cet ami de la présidente, de cette confidence qu'on appelle la Rasputine sud-coréenne. Je trouve que c'est pas tout à fait juste comme appellation, mais en tout cas c'est le titre qui lui est donné dans la presse sud-coréenne. C'est Madame Choi Soo-il qui est attaquée à la fois pour avoir été très proche de Madame Park et de lui avoir peut-être soufflé quelques idées, comme ça, hein, on ne sait jamais, mais aussi d'avoir œuvré auprès des Chobol. Vous savez, ces conglomérats sud-coréens, pour récupérer de l'argent, d'où la corruption, d'où les abus de pouvoir, d'où tout ça. Alors il faut savoir que ça rigole pas en Corée du Sud, hein, c'est quand même un pays où la hiérarchie, le rapport à l'autre, tout ça c'est très très codifié. Donc quand vous avez des chefs des conglomérats, de ces chaebols qui sont convoqués devant une commission spéciale, et ben c'est du lourd. 8 chefs des plus gros conglomérats sud-coréens sont présentés mardi dernier devant une commission spéciale d'enquête. Les images sont assez stupéfiantes. Ce sont des hommes en costume cravate, avec les têtes baissées, les épaules relevées, hein, le cou est rentré. Donc il s'agissait des groupes on a Samsung, Hyundai, SK Group, on est dans le pétrole, LG, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je ne vais pas tous vous les dire. Donc ça touche tous les secteurs d'activité, bien évidemment. À côté de ça, il y avait la Fédération des industries coréennes qui a ici aussi été convoquée comme étant une plaque tournante un petit peu de cette corruption aussi. Ils ont dû répondre aux questions des députés lors d'auditions qui ont été diffusées en direct à la télévision. Donc c'est une affaire nationale. Là, on a une crise hein, en Corée du Sud quand même, il faut se le dire. Donc c'est la grande question, c'est de savoir combien Mme Choi Soon-sil a touché en dessous de table et dans quelles circonstances exactement. En tout, il y a 52 groupes qui sont visés par les députés. C'est pas une mince affaire, hein, c'est ce que je vous raconte. Et ces groupes lui ont reversé à peu près 62 millions d'euros à travers diverses fondations. Madame Choi, elle a une fille qui a aussi beaucoup profité. Alors c'est une fille qui fait du cheval, même à haut niveau. Et donc Samsung lui aura acheté un cheval pour 850 000 euros. Ouais, tu peux rien. Hein. Donc ça, c'est une anecdote hein, comme ça, mais en fait, il y a beaucoup de malversations. Un des accords de Madame Choi aurait permis à Samsung, qui est quand même le plus gros conglomérat en Corée du Sud, le chiffre d'affaires, c'est 4,8% du PIB sud-coréen. Donc c'est un truc, si Samsung demain éclate, c'est quand même aussi une petite catastrophe nationale. À côté, notre Renault, c'est absolument rien. Samsung aurait versé 16 millions d'euros à 2 fondations de cet ami de la présidente, et en échange le Chobol aurait reçu le feu vert d'un fonds de pension coréen pour une opération de fusion destinée à quoi ? À faciliter la transmission dynastique du groupe, puisqu'on est évidemment dans des Chobol aussi qui sont dynastiques, famille, on est dans la famille, et donc ça aurait, voilà, c'est une transformation de la loi pour permettre une continuité dynastique. C'est très intéressant parce que tout ça soulève le lien entre les Chobol et les différents politiques politiques qui se sont succédés hein, depuis la guerre de Corée. Et tout ça nous rappelle qu'en fait, souvent, les anciens politiques, les anciens ministres ont eu des petits soucis judiciaires et ont été accusés de corruption. Il y en a même un d'ancien président qui s'est suicidé, hein, je crois que c'était en 2008 ou 2009. Il y avait une enquête qui était lancée contre lui. Alors, une petite anecdote de plus, la fille, a priori, a pu rentrer dans une université très prestigieuse qui s'appelle Lewa Women's University. Le conseil d'administration a changé le règlement pour que l'équitation soit reconnue comme une discipline qui lui permette d'être positionnée avec un système d'élèves où, de toute façon, quand vous êtes athlète, vous avez des facilités et tout. Ça n'existait pas avant et pof, tiens, c'est bizarre, elle a pu rentrer dans cette belle université. Depuis, elle a dû... elle a été virée. Tous ces cursus ont été annulés. Et c'est pareil, il y avait eu un certain nombre de manifestations étudiantes pour que tout ça cesse. Il faut dire qu'elle avait été absente 141 jours sur 193, alors que son dossier notait qu'elle avait bien été par là. Voilà, donc, je vous le disais, c'est une situation de crise pour la Corée du Sud. Le système des chobols ne fonctionne plus. Visiblement, les Sud-Coréens en ont marre. D'ailleurs, les manifestations vont certainement continuer, puisque l'idée, là, maintenant, pour les opposants politiques, mais aussi pour les gens de la rue, c'est de virer tout le monde, hein, un peu, c'est de faire le gros ménage quand même, parce que là, on est dans une affaire d'une belle démocratie, avec un redressement économique important sur les décennies précédentes, qui aujourd'hui connaît un chômage important. Il y a une pauvreté, on n'est pas juste dans les précarités, on est dans la pauvreté, c'est en train d'arriver dans les mégalopoles sud-coréennes. Donc il y a une crise du travail, mais parce que je vous rappelle aussi que ben, c'est un système où vous faites des heures de dingue quand vous êtes écolier, que quand vous êtes salarié, on vous demande encore de faire des heures de dingue, et donc ça amène aussi une crise sociale, une crise aussi au niveau des femmes, qu'on en marre de ces principes codifiés dont je vous parlais tout à l'heure. Donc allez savoir si ça va changer les choses, tout ça je ne sais pas, mais en tout cas les gens sont dans la rue. Ce qu'on noterait quand même pour terminer, c'est que Mme Park avait été élue avec une idée qu'elle était la fille de la nation. Ses deux parents ont été assassinés. Je vous rappelle que son père était un dictateur. Il a été assassiné en 79. Sa mère a été assassinée en 74. Donc elle représentait la femme sans enfant, sans mari, qui était prête à se donner à la nation. Et aujourd'hui, bah, la nation se retourne contre elle. C'est vraiment une chute pour Madame Park. Alors on va enchaîner avec les barbares, si tu veux bien.
Oh ben enchaînons avec les barbares, les États qui exécutent en toute légalité, autrement appelé la peine de mort. Bah je vais une petite info des plus croustillantes évidemment hein, quand ça concerne ça. Ça se passait dans l'État de l'Alabama. Un état du sud, évidemment. C'est Ronald Smith qui avait 45 ans. Il a passé 41 piges dans le couloir de la mort. Et en fait, le jour de son exécution, c'était jeudi dernier, hein, la semaine dernière, il a suffoqué, il a émis des râles, il a convulsé pendant 13 minutes. C'est un journaliste américain qui était présent qui a ramené cette information. Et effectivement, tout ça, enfin, c'est pas la première. Je peux en citer deux, trois quand même. On avait celle de Dennis McGuire qui est décédé dans l'Ohio après 25 longues minutes où il a suffoqué. Clayton Lockett qui a succombé dans l'Oklahoma au bout de 43 minutes de râles et de convulsions. Ou encore Joseph Wood dont l'agonie a duré 2 heures en Arizona. Et tout ça, c'est aussi en lien avec le fait qu'aujourd'hui, les États qui assassinent ont quelques difficultés à se fournir en superbes produits létals. Alors, ils font des mélanges. Pas des plus efficaces, hein,
Ça marche pas bien.
A priori. Donc voilà, je...
Vous devriez essayer le sabre, comme en Arabie Saoudite. Il paraît que c'est beaucoup plus efficace.
Je pense bien.
Mais là, on en rigole un peu, mais moi, j'ai lu quand même des commentaires sous des articles concernant la peine de mort. Des gens qui débattaient, hein, de savoir ce qui était plus efficace. Parfois, en ne se rendant pas bien compte quand même du sujet. C'était très léger et c'est très choquant quand même, je trouve.
Mmh. Une hiérarchisation de l'horreur, mais oui. Sympathiquement, tranquillement.
Voilà, tout à fait.
T'avais peut-être aussi une autre info.
Oui,
toi,
alors moi, je voudrais vous parler de Rommel Blum. On est toujours aux États-Unis d'Amérique. C'est lundi, la Cour suprême des États-Unis a refusé d'entendre son appel. Il faut savoir qu'il a été condamné et reconnu coupable et condamné à la peine de mort pour avoir tué et violé une adolescente en 84. Le 15 septembre 2009, à la prison de Lucasville, dans l'état de l'Ohio, il doit être exécuté. On tente de lui poser un cathéter, ça marche pas. On le pique à plusieurs reprises. Ça dure pendant 2 heures. Hein. Tout ça pendant ce temps, évidemment, il gueule et il souffre. Finalement, bon, l'exécution est suspendue. Il avait à trop souffrir. Donc, Rommel Brown était sorti vivant en 2009 de cette salle de la mort. Et donc, ses avocats faisaient savoir que, essayaient de montrer qu'en fait il y avait eu quand même un préjudice mental et physique et qu'il n'était pas normal qu'il y ait une deuxième tentative d'exécution puisque a priori il avait déjà quand même bien souffert. Alors il se tournait sur le 8e amendement de la Constitution des États-Unis d'Amérique qui bannit les peines cruelles ou inhabituelles et puis sur le principe de la double incrimination qui dit que nul ne peut être puni pénalement une seconde fois pour les mêmes faits. Un principe qui est souvent utilisé dans le droit américain. Alors donc la Cour suprême a dit non, pas de souci, tu peux être exécuté une deuxième fois. Alors le problème c'est que comme tu soulevais, il y a des petits problèmes de produits avec ce midazolam qui est censé endormir les condamnés, mais simplement ça marche pas. Il y a eu plusieurs témoignages que les gens continuent à souffrir. Il risque d'être une deuxième fois exécuté avec les mêmes souffrances. Ça se trouve qu'il faudra attendre une troisième fois, jamais 203, non, c'est ça aussi. Hein, parce qu'on peut en rire de la peine de mort, surtout dans des États qui se disent démocratiques et qui continuent à assassiner les gens et qui en plus le font d'une manière particulièrement cruelle, il faut le dire.
Mais moi, je sais pas après si tu as des infos là-dessus, mais c'est quoi la réaction des soutiens, on va dire, à la peine de mort? Est-ce qu'ils sont vraiment en train de se dire, bon, c'est pas grave, on s'en fout?
Non, c'est qu'en fait, ils le méritent.
Oui, c'est ça, on est dans cette.
On est dans vraiment le côté un peu chrétien.
C'est très religieux.
Voilà, donc. Il faut savoir que lundi, il y avait aussi un cas qui concernait Henry Siriki. Ça fait 40 ans qu'il est dans le couloir de la mort et il y a un magistrat qui s'appelle Stephen Breyer qui s'est opposé à ses confrères qui a dénoncé la détention longue de cet homme. Il a dit Henry Siriki est emprisonné depuis 40 ans sous la menace d'être exécuté. Quand il a été condamné en première instance, le mur de Berlin était bien en place. La chute de Saigon venait de se produire. Peu d'Américains connaissaient l'existence de l'ordinateur individuel ou d'Internet. Et plus de la moitié des Américains vivants aujourd'hui n'étaient pas nés. Ouais, c'est vrai, voilà, on laisse des gens croupir, crever... sans rien en fait, ça amène rien de plus. Donc il y a quand même quelques personnes qui réagissent, mais ça reste quand même des éléments assez rares. Même s'il y a un petit peu des voix qui apparaissent. Je crois que tu voulais nous parler un petit peu de religion. Peut-être.
Oui, religion, patriarcat, deux choses qui vont souvent de pair. Alors, avec deux points différents, je vais commencer par l'Arabie Saoudite. Le 29 novembre dernier, dans une rue de Riyad, une femme est sortie tête nue et a posté une photo sur Twitter. Voilà, jusque-là, on se dit, sauf que c'est en Arabie Saoudite. Et que, depuis la publication de cette photo, la jeune femme a forcément été menacée de mort avant d'être recherchée par la police qui la retient désormais dans une prison pour femmes. C'est le porte-parole de la police, c'est Fawaz Al-Maiman, qui a confirmé donc lundi, le 12, l'arrestation de cette femme d'une vingtaine d'années sans divulguer son nom. Et son cas, selon lui, devrait faire l'objet d'investigations supplémentaires quand même, on n'est pas très très sûr. Donc ce même porte-parole, il a évidemment dénoncé... la violation des mœurs, le fait que l'action de cette femme viole les lois en vigueur, dans le pays. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Il a aussi dit qu'il l'accuse de parler ouvertement de relations prohibées avec des hommes et des hommes avec qui elle n'entretient pas de lien de parenté. Vous imaginez le crime? Cette arrestation donc relève une fois de plus, comme d'habitude, que les droits des femmes en Arabie Saoudite, c'est très 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 compliqué. J'en profite vite fait, c'est quand même pour rappeler que l'Arabie Saoudite, c'est le seul pays au monde qui interdit aux femmes de conduire. Elles doivent aussi avoir évidemment l'accord d'un homme, un tuteur, si elles veulent travailler, voyager ou se marier. Elles ne peuvent pas manger seules dans un restaurant. C'est juste des fois se dire des gestes complètement anodins sont complètement interdits. Je sais pas. Enfin, c'était juste pour parler de cette femme-là. Ne l'oublions pas et essayons de garder en tout cas son nom et son histoire pas dans le silence parce que le silence tue encore plus que le reste. Et les autres réacs dont je voulais vous parler. Allez, on revient en France, faire un petit tour en France. parce que on a le collectif des mères pour l'enfance. Alors des mères, M-A-I-R-E. Hein, les mères de vos villes et tout ça, hein, pour l'enfance, qui dénoncent l'atteinte à leur liberté de conscience. Alors, de quoi que ça parle, vous avez déjà un petit peu deviné, je pense, mais quand même. Déjà, je ne résiste pas à l'idée de vous donner le titre du Figaro. Les mères opposées au mariage gay en appel à l'ONU. On sent un peu quand même cette tristesse et cette difficulté de leur statut. Donc voilà, et en fait, ben, ces mères pour l'enfance, hein, et ben, ils ont entamé, après avoir été devant le Conseil constitutionnel, puis le Conseil d'État, les deux ont refoulé leur idée d'avoir leur liberté de conscience concernant le mariage pour toutes et tous. Donc, ils sont allés devant la Cour européenne des droits de l'homme. Hein, il y a une procédure en cours depuis 2015, soutenue par 146 élus. Hein, c'est jamais une petite personne qui y va, hein, quand même. Et donc maintenant, ils en appellent à l'ONU. Parce qu'effectivement, c'est très très compliqué. Hein. Je vais vous citer quand même deux, trois phrases qui nous tiennent, ces gens-là. Déjà, c'est sur l'idée de présentation de ce collectif. En fait, on nous dit c'est les mères pour l'enfance. Ce serait bien que le Figaro quand même se renseigne un petit peu, parce qu'ils disent il est créé depuis 2013. Erreur, il est créé depuis 2005 quand même. Hein, et ces mères-là, alors si on regarde un petit peu 2005 en France, etc., c'est l'époque où un certain maire de Bègle avait marié deux hommes, et donc ces mères-là, ces mères pour l'enfance, se sentaient évidemment en danger, évidemment. Et donc, hein, c'est un collectif qui rassemble des mères et des adjoints de tous les horizons, de gauche et de droite, mais qui sont évidemment communément opposés au mariage et à l'adoption par les couples homo. Alors, lors d'une conférence de presse quand même, il y a deux, trois trucs quand même, c'est croustillant, il y a Franck Meyer, qui est maire UDI en Seine-Maritime, et il est cadre des maires pour l'enfance. Hein. Il a déploré, il n'y a pas du tout de clause de conscience dans la loi Taubira. Nous ne voulons pas marier deux hommes, nous ne voulons pas marier deux femmes. Pour nous, le mariage, c'est un homme et une femme. Et il a continué en disant qu'il avait déjà répondu défavorablement dans une commune à deux hommes, dans sa commune, pardon, à deux hommes qui voulaient se marier, donc avec son aide. Vraiment très, très, très sympa, ce monsieur. Et donc, on a un autre gars qui est dans ce collectif, on le connaît un petit peu, il s'appelle Hervé Mariton, un petit énervé bien proche des catho-fachos et autres homophobes.
Je crois que Laurent l'aime bien, lui.
Oui, ah bah, tout le monde l'aime, cet homme. Hein. Il y a juste lui qui aime personne. Pardon. Et donc, lui, il a dit que le recours devant l'ONU est tout à fait justifié et bienvenu. Mais attention, il précise, il ne fait pas un appel à la désobéissance civile. Voilà. Que vous rappelez d'autre ? C'est qu'une élue socialiste, hein, ça rassemble, enfin, ça montre bien que c'est de tous les côtés que ça se passe, le patriarcat. Une élue socialiste marseillaise, hein, avait été donc, par ses convictions religieuses, elle avait refusé d'unir deux femmes à Marseille. Et elle avait été condamnée à 5 mois de prison. Et juste pour terminer sur le collectif là, des maires, c'est quand même plus de 20 000 élus qui sont signataires de ce collectif, ce qui n'est pas rien. Et dans le Rhône, on en a 253. Parce que je vous conseille d'aller sur le site et vous avez toute la liste de tous ces gentils défenseurs du patriarcat et de cette hétéronormativité. Ah, bon.
Eh ben écoute, on va rester dans le même genre.
Eh ben allons-y.
Avec la morale. Laurent vous a parlé de Sausage Party la dernière fois, non pas pour vous parler du film d'une manière artistique, mais pour ces petits problèmes encore une fois avec des associations. Donc c'est un film réalisé par Greg Tiernman et Conrad Vernon. Je vous rappelle, c'est l'histoire c'est un dessin animé, hein, c'est un film d'animation plutôt, avec une saucisse et d'autres aliments, d'autres objets du quotidien. Qui parle plutôt cru, oui, c'est vrai, et qui découvre ce qu'ils vont devenir et comment les humains les utilisent. Et voilà. Donc, les juges, excusez-moi, les juges du tribunal administratif de Paris donc examinaient un recours déposé par Promouvoir, Juris pour l'enfance et Action pour la dignité humaine, qui réclamait une reclassification, c'est vraiment compliqué, en film interdit aux moins de 16 ans, ce qui requiert un retrait préalable du visa d'exploitation. Pour l'instant, le film est sorti accompagné de la mention interdit aux moins de 12 ans. Et ben, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de ces associations. Sous cette partie, va rester simplement interdit aux moins de 12 ans. Alors, ce qui était intéressant hein, dans les attaques de Promouvoir, par exemple, hein, qu'on connaît bien, hein, maintenant vous en avez déjà parlé, de cette organisation proche des milieux intégristes catholiques, proche, dedans même. Je sais pas pourquoi je dis proche, à chaque fois.
C'est toujours très imbriqué tout
voilà.
ça.
Ah, c'est ça. C'est le petit Tetris. Donc, il s'appelle Maître Bonnet, l'avocat de Promouvoir, et il a expliqué que c'était une entreprise délibérée de toucher les plus jeunes. Délibérée, donc. Donc, les deux gars de l'autre côté du monde ont fait une entreprise délibérée pour venir pervertir nos jeunes mineurs ici en France. Hein, déjà, vous voyez un petit peu la logique. Et donc, hein, ils insistent. Hein. André Bonnet a expliqué que ça visait volontairement le jeune public, que, alors évidemment, il y a une attaque hein, sur, bon, tout le monde, là, il n'y a même pas de à vous expliquer que je vous raconte la fin, il y a une scène d'orgie à la fin, enfin bon, voilà, voilà. Ça, ça leur a pas du tout plu à Promouvoir, mais alors, pas du tout, puisqu'il paraît qu'il y a, d'après eux, un paquet de cornflakes, un objet assez corpulent, assénant des mouvements de va-et-vient brutaux et demandant « tu aimes ça, salope ?» Donc ça leur a pas plu, oui, parce qu'en plus ça parle de cul, de fellation, c'est très sexuel, hein, bien évidemment. Donc, il y avait urgence, hein, selon Maître Bonnet, André Bonnet, je vous avais pas donné son prénom, hein, puisque le film étant déjà en salle, il faut absolument protéger le jeune public. Alors bon, le tribunal a pas du tout été d'accord, d'ailleurs c'est très drôle, parce que c'est moi j'ai été lire les 8 pages du jugement, c'est très marrant parce qu'on se retrouve avec des histoires de cornflakes nommées par du coup ce rendu, et... Bah oui, il raconte d'une façon tout à fait factuelle ce qui se passe dans le film, puisqu'ils l'ont bien vu, hein, ces juges. Et donc c'est marrant, parce que ça reste des termes très juridiques, avec une explication d'un film d'animation avec des saucisses et des petits pains. Voilà. Alors il y en avait plusieurs, hein, des organisations, associations qui s'étaient élevées contre la sortie de ce film en France. On avait les associations familiales catholiques, l'AFC, qui avait mis en garde hein, contre le film, vraiment, hein, il fallait pas y aller. Et puis la manif pour tous avait dans un tweet interpellé le CNC qui délivre les visas d'exploitation. Allô, le CNC, hein, déjà ça fait jeune et branché. Expliquez-nous comment vous autorisez la projection d'une partouze géante à voir en famille. Alors moi, je vais juste vous expliquer un truc. Vous aviez donc l'intention d'aller en famille voir ce film. Ben c'est bizarre parce que vous avez qu'à dire à vos gamins qu'il faut pas y aller quand il a 13 ans, puis quand il en a 16 ou 17, bah peut-être que le gamin, la gamine commence un peu à grandir et donc on peut voir les choses autrement. Alors vous allez me dire, il demandait à ce que ça soit reclassifié en moins de 16 ans. Donc effectivement, 17 ans, tu pouvais y aller. Hein, si tu voulais, toi, auditeur et auditrice, tu avais le droit d'après Promouvoir. Par contre, à 15 ans et demi, là, ça posait un petit peu un souci. C'est vraiment marrant qu'il faudrait qu'il y ait des lois, des cadres pour s'occuper de nos enfants. Mmh. Ben non, on peut peut-être s'en occuper tout seul, monsieur et mesdames de Promouvoir. Il faudrait qu'il y ait des règles de la morale qui viennent s'interposer, en plus sur un objet, certes, c'est le cinéma industriel, hein, mais on est quand même dans un objet artistique et culturel. Donc c'est marrant, cette manière d'envisager les choses. C'est-à-dire qu'on se sert de nos gamins pour amener une morale, c'est aussi simple que ça. Parce que moi, j'ai été lire aussi le communiqué du 7 décembre du CLIC. Vous savez, c'est Culture, Liberté et Création. C'est la commission du Front National. Le machin qui sert à rien parce que personne ne veut rentrer dedans. On en avait un petit peu parlé ici dans des émissions précédentes parce que moi, ça me fait vraiment marrer ce truc. Alors, ils attaquent hein, évidemment le film. Puis, on nous explique, levons le doute. Nous ne sommes pas animés par une volonté de censure, mais nous considérons que les enfants doivent être protégés. Encore une fois, on en vient aux enfants. Mmh. Mais c'est pas de la censure. Attention, soyons, nous sommes des démocrates, voyez-vous, au clic. C'est juste pour la protection de nos enfants. Bah, tes enfants, t'as qu'à t'en occuper hein, quand il est un peu petit, puis tu leur racontes des choses. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que nous, on projette nos propres perceptions des choses. Et que quand toi, Jean-Yves, tu pourrais boire une saucisse en train de se faire une autre saucisse, bah, peut-être que l'enfant, ce n'est pas ce que lui, il y voit. C'est un peu comme quand on voudrait faire fermer un magasin parce, ou interdire un magazine parce que ça serait cochon, que ça serait vulgaire, ou parce que ça serait. Ça pourrait être pédophile, vous voyez, des choses comme ça. On y projette nous-mêmes, en tant qu'adultes, notre propre sexualité, notre propre morale, nos propres habitudes. Et on utilise quand même beaucoup, finalement, nos enfants pour nous donner cette morale qui est quand même très étriquée, il faut le dire. Alors, ils s'en prennent aussi au scénariste Seth Rogen, parce qu'il s'est moqué des French catholiques. ça leur a pas plu. Au clic, je te le dis. Et puis, ils s'en prennent aussi... Alors, il y a une phrase, je vais vous la lire. Sausage Party est un film d'animation américain réalisé par Seth Rogen et Evan Goldberg, tous deux proches de Judd Apatow. Je vois pas pourquoi on vient nous parler de Judd Apatow. Alors moi, la seule chose que j'ai pu y voir, et alors franchement tu vas me trouver de vraiment mauvaise, mais tu vas me trouver mauvaise, c'est qu'il est né dans une famille juive. C'est ça le problème ou pas? Non, parce que j'en viens avec l'extrême droite des fois à me poser des questions sur leur antisémitisme latent quand même. Parce que certes, Judd Apatow fait des films comment dirais-je, de comédie hollywoodienne un peu des fois grasse, hein, ça certes, il faut le dire. Enfin, jusqu'à présent, il a pas bien tourné de la pornographie quand même non plus. Et je vois pas bien ce que ça vient faire là. Voilà, donc on va dire oui, je suis mal placée, mais je pose des questions parce qu'il y a des fois, dans les textes du FN, on trouve des petites choses un peu bizarres. Donc voilà, je voudrais juste souligner ça.
Un peu d'antisémitisme au Front National, bah, ce serait vraiment...
Alors on peut dire que c'est pas du tout ça, c'est parce qu'il est gras peut-être dans ses films et ses scénarios, je ne sais pas. Mais voilà, moi je vois pas bien pourquoi on vient d'un seul coup le mettre en avant comme une grosse approche et quelqu'un qu'il faudrait absolument anéantir, parce que du coup le citer comme ça, ça paraît bizarre quand même. Je pouvais juste rapidement vous parler de Deborah De Robertis. C'est une performeuse. Elle était cette semaine devant le tribunal correctionnel de Paris pour exhibition sexuelle pour deux performances qu'elle a fait à la Maison européenne de la photographie et au musée d'Orsay, c'est donc à Paris. Hein. Donc pour vous dire tout de suite, hein, le jugement sera rendu le 1er février. Et pour vous dire aussi tout de suite, elle risque 2000 euros d'amende. Jusqu'à présent, elle avait eu des rappels à la loi. Alors, si vous ne connaissez pas Deborah De Robertis, c'est une femme qui c'est ce que je t'ai raconté tout à l'heure, moi je trouve ça drôle, se déclare plutôt pudique, simplement elle utilise effectivement son corps dans des performances artistiques, elle se met en scène et c'est vraiment là où il y a l'artiste, c'est-à-dire qu'il y a la femme pudique et puis il y a l'artiste qui se dévoile. Ces deux apparitions, même la juge a dû reconnaître qu'en fait c'était chaste par rapport à ce qu'elle fait d'habitude, c'est vrai. L'origine du monde, elle avait écarté les jambes avec le sexe grand ouvert, elle avait un tissu en haut, mais elle était là, immobile, devant le tableau. C'était une reproduction vivante, finalement. Ça m'avait beaucoup choqué. Alors, là, c'est donc pour deux performances. Une qui s'est passée le 27 mars. Elle est allée le dernier jour de l'exposition Bettina Rens à la Maison européenne de la photographie à Paris. Elle s'est placée devant un cliché de Monica Bellucci en train de manger des spaghettis. Et elle avait une tenue rouge et elle s'est versée du ketchup sur la poitrine. Très franchement, elle était plutôt couverte. Moi, j'ai trouvé. C'est vrai que je l'ai trouvé très pudique sur cette performance. Je n'y étais pas. Hein. Je n'en ai vu que des photographies. Voilà. Oui, évidemment, elle met aussi un certain mouvement hein, dans son corps parfois, ce qui n'est pas toujours le cas, mais là, c'était un petit peu le cas. Et puis, elle est allée à une exposition sur la poupée Barbie. Elle s'était mis une perruque blonde sur la tronche et elle avait une combinaison latex chair, mais qui lui laissait apparaître les seins. Elle avait une espèce de fausse toison entre les jambes, quoi, un truc bien marqué. Il n'y a pas beaucoup de femmes à avoir une toison pubienne de cette importance. Et c'est là-dessus où il y a eu des plaintes. Hein. Une dame a porté plainte contre elle pour une exhibition, pensant que sa pose était trop suggestive. Ça l'a choquée. Bon, il faut savoir qu'elle ne demande pas l'autorisation hein, quand elle va faire ça dans les musées. Elle arrive, elle fait sa performance. Et d'ailleurs, elle l'a fait à chaque chaque fois les derniers jours de l'exposition. C'est-à-dire que ça vous donnait pas plus envie d'aller, ou pas d'aller voir l'exposition. Ça a pas gâché l'exposition par sa performance et la médiatisation qui a pu en découler. C'était la fin et donc elle est venue faire sa performance artistique. Son avocat se demande bien ce qu'elle fait là. elle en tant qu'artiste, c'est-à-dire que si on en est attaqué l'art comme ça, bah, c'est toujours la même question. Hein, c'est que ça pose une question. Alors l'avocat ne parle pas d'exhibition, il parle de menstruation pour dire que c'est pas, qu'elle s'est pas exhibée, puisque en fait le but c'était pas de provoquer du désir. Et non, c'est pas du tout ça. Donc, encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. On projette nos propres idées, nos propres fantasmes, notre propre morale. Et que donc, y a des gens qui ont vu cette femme se mettre du ketchup sur les seins et qui ont, eu du désir ou ça leur a évoqué une sexualité. Et elle n'était pas là pour forcément raconter ça. C'est pas parce qu'elle se met nue, c'est pas parce qu'elle écarte les jambes qu'elle est là pour provoquer une envie et un désir. Et c'est ce que son avocat essaye aussi de démontrer dans ce procès. Et je trouve ça intéressant parce que, c'est pas parce qu'elle est une femme, qu'elle utilise son corps, que c'est un objet de désir. Et on a encore beaucoup de batailles à mener pour arriver à dissocier les choses et pour arriver à rappeler aussi que si moi, j'ai envie de provoquer du désir, je le provoque, mais que dans bien d'autres circonstances, c'est pas du tout le cas. Et que même dans l'art, et que le sexe de la femme n'est pas qu'un objet de pénétration pour l'homme viril, mais c'est notre objet à nous. Hein, que vous dire de plus, messieurs c'est pas la première fois là. On pourrait se souvenir de Stephen Cohen, ce Sud-Africain. Vous vous souvenez pas? Il s'était attaché au bout du pénis un coq. Il s'était baladé, je crois, c'était à la Défense à Paris. Lui, c'est pareil. Hein, il a eu beaucoup de soucis aussi. Souvent, ça commence par des rappels à la loi et puis ensuite, plaf, ça vient taper un peu plus fort et en général par l'amende parce que taper financièrement, c'est aussi un acte important sur certains artistes qui, pour certains, vivent bien, mais pour d'autres, pour qui ça peut être une somme un peu importante. Voilà.
Mais c'est toujours étrange quand même cette manière de s'attaquer à l'art, aux femmes, aux libertés, à la nudité, sauf quand c'est pour vendre un yaourt, on dirait.
Donc, c'est bien ça le problème, hein. C'est que là, y a personne, on peut mettre les femmes à poil pour vendre une cuisine. Hein. Moi, cette pub là de je ne sais plus quelle marque, où la femme était allongée sur le plan de travail avec un homme qui lui versait l'huile d'olive sur le dos, ça, je veux dire. Bon, il y a bien des politiques, hein, qui s'étaient quand même offusqués, mais enfin, voilà, ça c'est une utilisation assez fréquente, effectivement, comme tu le dis. Parce que bon, la lingerie c'est une chose, mais malheureusement, mais même l'homme, hein, Julien, vous y venez, messieurs, est de plus en plus utilisé pour vos pectoraux. C'est-à-dire que même vous, vous êtes normalisé comme nous, les femmes, avec un corps quand même splendide.
Sinon, est à vendre. Tout. Je crois que c'est ça, non?
C'est ça. D'ailleurs, si on parlait un petit peu du profiteur, de vendre.
Hein, eh ben oui, allons-y.
Monoprix? Parce que ça, c'est...
Allez.
Tu sais que j'aime beaucoup Monoprix. Moi, j'aime bien les multinationales de l'agroalimentaire.
Eh ben oui, Monoprix. Alors, c'est l'enseigne du groupe Casino, hein, qui vendredi... Attention, c'est une info, Le Figaro. Alors là, on peut être sûr que c'est pas loin de la vérité quand même. Donc, on a donc Le Figaro qui nous dit que donc le groupe Casino aurait trouvé un accord vendredi avec ses syndicats.
Pas les jaunes.
Hein?
Les jaunes, juste avec une partie des syndicats.
Oui, alors, mais c'est expliqué un peu plus bas, ouais, justement, parce que... et donc, cet accord, c'est pour permettre, dès l'année prochaine, d'ouvrir les portes des magasins après 21h. Hein, ami auditeur, auditrice, je suis sûr que c'est tout ce que tu attendais. De pouvoir faire tes courses entre 21h et 22h. Parce qu'avant, tu sais pas quoi faire. En même temps, ça, c'est vraiment un des... c'est une des grosses batailles en fait qu'a fait le nouveau, on va dire, patron, le nouveau général du groupe, hein, qui s'appelle Régis Schulz, qui était chez Darty, enfin anciennement chez Darty, et qui maintenant avait dit c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Donc jusque là ça avait toujours planté. Pourquoi? Parce que il y avait des syndicats, dont la CGT aussi, FO, je crois bien, qui avaient bloqué en disant non, en fait, eux, ils refusent le travail de nuit. Or, les exceptions qui sont déjà dictées par la loi de 2001. Et donc, entre-temps, c'est-à-dire que l'année dernière, hein, c'était la CGT qui était, on va dire, majoritaire, qui donc ne signait pas. En un an, les choses ont changé. Et la CGT et FO sont passés minoritaires, ce qui a permis à la CFE-CGC et à la CFDT qui est maintenant la première organisation syndicale du groupe, de signer ça. N'est-ce pas formidable ? Moi, je pense que c'est vraiment formidable. Donc, je donne juste vite fait les deux, trois petits détails économiques, parce que hein, on va pas travailler pour rien quand même, dites-moi, c'est pour nous en mettre plein les poches. Eh ben non, parce que les salariés donc qui travaillent entre 5h et 6h du matin, ou entre 21h et 21h15, repercevront une majoration de 25%. Cette majoration, elle sera portée à 50% pour celles et ceux qui travailleront entre 21h15 et 22h30. Je trouve que la fourchette est bien grande. Et 70% hein, de majoration si c'est pour travailler entre 22h30 et 5h du matin. Alors évidemment, c'est ce qu'ils disent, hein, l'objectif c'est pas d'ouvrir très très tard. Je me dis pour l'instant, parce que ça risque d'arriver, et c'est pas partout, mais n'empêche que c'est quand même voué à s'étendre un peu plus que ça ne l'est déjà, et ce qui est génial quand même, c'est qu'ils rajoutent, ces horaires plus tardives seront forcément effectués sur la base du volontariat, parce que vous le savez bien, on se lève tous volontairement le matin en se disant, tiens, on va aller travailler, parce qu'on a que ça à faire. Et ben là, ça sera tard le soir. Et avec une prise en charge de 500€ par an, donc ça fait 41€ hein, par mois, de frais de garde pour les enfants de moins de 10 ans. C'est pas génial ?
Ah bah si, moi ça c'est l'info que j'ai préférée en fait.
On dit merci qui ? Ouais. Merci patron !
Mais il y a la prime de fermeture aussi pour les cadres, 20€ et 15€ pour les agents de maîtrise. C'est une prime.
Ah ouais.
Ça c'est chouette aussi, 20€ c'est toujours bien quoi.
Bah ouais, c'est génial.
C'est pas mal hein.
Oui, ça fait rêver non ?
Ouais.
Ouais.
D'autres choses sur Monoprix ?
Quoi d'autre ? Et qu'est-ce que j'avais d'autre sur eux ? Non, j'avais pas beaucoup, beaucoup d'autres choses.
Il y avait une petite grève là lundi des salariés du Monoprix du boulevard Gambetta à Issy. Donc ils et elles manifestaient pour leurs conditions de travail, puisque la direction refuse d'y discuter. Et puis sur la problématique, j'y mets des guillemets, du travail le dimanche. Parce qu'après la travail en soirée, il y aura le travail le dimanche. Mais tu sais, tout ça, ça participe aussi à une nouvelle restructuration économique de ces magasins de centre-ville, en particulier dans des villes comme Lyon et Paris, où on a ces Deli Monop, ces Carrefour aussi.
Truc City, là.
Voilà, enfin, tous ces machins.
C'est petit.
Je sais pas bien les noms.
Bah, c'est-à-dire avant qu'ils aient tout détruit et fait un gigantesque à l'extérieur des grandes villes, maintenant ils réinvestissent les centres-villes, en fait.
Il y a des épiceries, vraiment, et puis vous avez ces choses entre un mixte ou si vous entrez, allez-y, je vous donne l'autorisation dans un truc monop. Il y en a plein là dans le centre-ville sur la presqu'île et vous allez regarder les rayons et il y a beaucoup de rayons qui sont faits pour de la vente à emporter, à consommer tout de suite et plus simplement sur de l'épicerie. Donc tu vois, il y a une transformation de cette économie, c'est-à-dire que même dans certains de ces épiceries magasins vente, on est en train de t'installer des tables et des chaises. Donc souvent c'est des trucs un peu, tu sais, comme dans les stations-service, tu peux un peu t'accouder, tu vois. Mais il y a des évolutions, puisqu'à Paris, il y en a maintenant qui ont des fauteuils. Donc, on va être dans un espèce de transformation économique. Est-ce que ça va être une épicerie ? Est-ce que ça va être un magasin de vente à emporter ? Et c'est là où, effectivement, les syndicats, à mon avis, ont raison de s'inquiéter. C'est que derrière, tout va se transformer et qu'on peut faire passer une épicerie de quartier, d'un seul coup, petite restauration fast-food à emporter. Et que là, d'un seul coup, la problématique ne sera plus la même, en particulier au niveau du travail le dimanche, parce que, avec les différentes politiques qui arrivent, on est quand même tous et toutes mal barrés. Donc moi j'y vois ça aussi derrière toi qu'il faudra surveiller dans le temps, c'est comment ces trucs de proximité vont pouvoir évoluer. Mais tout le monde est à l'affût. Alors oui, William Sorin, moi ce qui m'a fait un petit peu, alors vous avez entendu parler de cette affaire, madame Monique Pifot donc est décédée et on a appris hier je vois que tu fronces là.
Je ne connais pas madame.
Je vais faire comme si tu n'avais pas du tout suivi. La semaine dernière, je vois passer une news dans la presse Echo qui nous raconte que donc la présidente, propriétaire et actionnaire unique de la financière Turenne Lafayette, Monique Pifot, est décédée. Alors la financière Turenne Lafayette, c'est William Sorin, Garbit, Petit Jean, les jambons Madrange, le Fouet, enfin bon, voilà. Et puis beaucoup de productions pour des marques de distributeurs. Donc pour la grande distribution, c'est un groupe qui emploie 3200 salariés, 21 sites industriels et qui s'est constitué à partir de 91 et du rachat d'une entreprise qui s'appelait les Délices du Palais, puis avec une croissance externe et des rachats successifs jusqu'à ce qu'on pourrait dire le coup de maître William Sorin en 2001. Et puis donc dans cette news que je vois passer, j'apprends donc que Madame Monique Pifot, 78 ans, sans enfant, avait fait savoir qu'elle souhaitait le transfert dans une fondation de l'ensemble du capital du groupe. À ce moment-là, un porte-parole déclare qu'il n'y aura pas de risque de démantèlement, car la propriétaire tenait à cette unité, à ce groupe qu'elle avait fondé. La fondation devait voir le jour début 2017, et ben ça risque pas d'arriver. Et puis par contre le démantèlement, ça, par contre ça risque bien d'arriver. Pourquoi ? Puisque Monique Pifot a été remplacée par un nouveau président, Éric Le Gouvello, qui a été nommé début décembre. C'est tout récent, suite à son décès, au décès de Monique Pifot. Et il y a un audit qui est mené. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des anomalies dans les comptes. Ça a été révélé hier. Et en fait, on apprend que Monique Pifot a gonflé artificiellement tous les éléments des comptes depuis une dizaine d'années. Alors, pour ce qu'on en sait, elle ne s'est pas enrichie personnellement. Mais ça, c'est que le début, hein, a priori. Voilà. Ce qu'elle aurait voulu faire, la Pifot, c'est gonfler le chiffre d'affaires, les résultats, les stocks, pour continuer à obtenir des financements de la part des banques, parce qu'elle était dans un quand même grand délire de rachat. C'est comme ça qu'elle a construit son groupe, en rachetant et en grossissant, pour faire aussi face au secteur de l'agroalimentaire, qui est en crise, paraît-il. Il y en a qui seraient toujours plein les poches, hein, mais par contre c'est la crise. Mais c'est vrai qu'il y a, en tout cas le secteur s'est durci. En particulier, il y a des guerres dans la grande distribution depuis maintenant plusieurs décennies, vous allez me dire, mais enfin, ça s'est encore durci. Et donc elle a créé un petit empire quand même, hein, 900 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il paraît qu'elle voulait atteindre le milliard, c'était son but avant de mourir. Et cette stratégie d'acquisition lui a fait, en fait, magouiller, manipuler tous les comptes. Et je vous rappelle qu'elle est actionnaire unique. Le gouvernement a pris la bonne chose a priori lundi, et ça a semblé inquiéter au plus haut de l'État, puisque c'est le ministère de l'économie et le ministère de l'agriculture qui ont publié un communiqué ensemble. Ah mais c'est une grande affaire quand même, puisque je vous disais plus de 3000 salariés, mais c'est aussi 1500 emplois indirects. Donc il y a quand même une volonté de vouloir sauver ce groupe, et surtout d'éviter qu'il y ait une liquidation judiciaire et qu'il y ait un démantèlement. Ça, d'après ce que j'ai lu un petit peu des communiqués des syndicats, ils le pensaient, que ça risque, ils pensent vraiment que ça risque d'arriver, surtout qu'en fait c'est pas nouveau, les difficultés de la financière Turenne Lafayette, puisque il y avait un dossier sur le bureau du comité interministériel de restructuration industrielle, c'est-à-dire qu'il y avait une situation économique difficile qui était connue, et donc c'est pour ça aussi peut-être que le gouvernement aujourd'hui peut se saisir facilement du dossier, vu que depuis quelques semaines, quelques mois, il était, je crois que c'est depuis cet été, déjà un petit peu ouvert, le dossier. Donc, mais c'est marrant, comme en quelques jours, on a Madame Monique Pifot est décédée, et ah, bah merde, il y a un trou dans la caisse. Merci Monique. Les salariés sont très très heureux.
C'est ça.
Eh bien, je vais vous proposer d'aller au théâtre.
Allons-y.
Voilà. L'année dernière, avec Laurent, nous vous avions parlé de Blanche-Neige de la Cordonnerie, une compagnie qu'on aime beaucoup, et qu'on suit, en tout cas qu'on essaye de suivre à chaque fois que la compagnie vient jouer à Lyon. On vous rappelle que la Cordo, comme on disait à l'époque, ce sont aussi des amis lyonnais et lyonnaises qui ont beaucoup évolué et qui ont maintenant une belle carrière. On est bien contents pour eux. Et mardi soir, nous sommes allés au théâtre de la Croix-Rousse, donc tout en haut du plateau, voir Hansel et Gretel, d'après donc les frères Grimm, un très beau conte, hein, avec des petits enfants, souvenez-vous, et des petits morceaux de pain et une forêt. Et ben là, nous avons une nouvelle équipe de la Cordonnerie, enfin une nouvelle équipe, la même équipe, hein, de la Cordonnerie, qui nous propose Hansel et Gretel avec une nouvelle version. Hansel et Gretel sont en fait deux vieux magiciens à la retraite qui vivent dans une caravane avec Jacob, leur fils, et apparaît Barbara derrière ses lunettes noires que l'on sent tout de suite manipulatrice, sorcière, vilaine, et qui va vouloir à la fois Jacob pour lui en entier, mais aussi se débarrasser de ces petits vieux qui franchement coûtent cher, hein, ils prennent de la place dans cette caravane, et Jacob va se laisser envoûter par cette Barbara et va accepter d'emmener ses vieux parents magiciens dans la forêt. Et c'est cette histoire que nous raconte la cordonnerie, avec toujours ce même concept, c'est à la fois un film muet diffusé et une équipe de musique, une équipe de comédiens qui va vous jouer en direct les dialogues, les bruits et la musique voilà, sur cette scène du théâtre de la Croix-Rousse. C'est leur concept, hein, la cordonnerie. Alors sur Blanche-Neige l'année dernière, moi j'avais beaucoup aimé vraiment parce que la scène était très très présente et Samuel Hercule nous faisait défiler à travers toute une installation, tout un tas d'objets qui sont des objets du quotidien et qui viennent de ce coup faire le bruit d'une feuille, le bruit d'une porte, le bruit de l'eau, et c'est toujours très rigolo de voir quels objets ils sont capables d'utiliser sur scène pour faire ces bruitages. Et puis il y a toujours cette, enfin c'est magnifique techniquement d'avoir deux comédiens alors vont jouer en direct ce film. Alors nous on a vu une deuxième équipe, alors j'aime pas bien dire la deuxième équipe parce que ça voudrait sous-entendre qu'il serait moins bien que la première équipe, alors que c'est pas du tout le cas, mais ce qui veut dire aussi qu'on a aujourd'hui à la cordonnerie des gens qui sont capables aussi de jouer plusieurs spectacles, que des spectacles aussi peuvent être peuvent accueillir différents comédiens. Moi je trouve ça très intéressant, et différents musiciens aussi, parce que l'équipe tourne au complet. On retrouve la présence de Michel Cromades, qui est un grand du cinéma, ce bonhomme avec ses cheveux gris qui a quand même eu toujours cette bouille particulière. Il est très émouvant dans ce film. Moi je trouve que c'est une belle performance. Ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez y aller avec les plus jeunes de vos enfants, parce que comme on le disait avec Blanche-Neige, ils peuvent être à la fois séduits, vos gosses, par ce qui se passe à l'écran et sur la scène. Mmh. Même si c'est vrai, dans Hansel et Gretel on retrouve moins la présence de la scène que dans Blanche-Neige. Les comédiens sont plus discrets, ils sont moins mis en valeur, on a moins aussi la présence des objets qui viennent qui apparaissent moins sur scène que ça pouvait être avec Blanche-Neige, mais ça reste vraiment un moment plaisant. Ça dure une heure, c'est très très agréable. Ça joue jusqu'au 21 décembre, excusez-moi, j'étais en train de vérifier, au théâtre de la Croix-Rousse. Et puis c'est une belle critique aussi un petit peu de notre société, hein, débarrassons-nous de ces petits vieux inutiles. Ce que j'aime bien avec la cordonnerie, c'est justement comment prendre un conte et le manipuler pour le rendre moderne, sans éclat aussi, parce qu'il y a toujours cette petite touche vintage dans les films de la cordonnerie. Il y a un souci du détail, ça, moi je suis toujours épatée par le détail dans les décors. C'est vraiment des toutes petites choses, ce qui donne envie de revoir ce spectacle, pour avoir envie de s'y replonger, parce que parfois on est happé par le film et puis parfois on a envie de regarder les deux comédiens en jeu et puis de regarder aussi les musiciens. Voilà, donc c'est une belle rencontre, je trouve, au Théâtre de la Croix-Rousse jusqu'au 21 décembre. Le Théâtre de la Croix-Rousse qui a une très très belle programmation depuis le début de la saison, qui d'ailleurs a une très belle programmation aussi pour le suite. Simplement, j'en ai déjà vu une belle partie. Je trouve que c'est un théâtre qui prend des risques, qui sait voilà, aussi bousculer son public, qui a un public d'abonnés, comme on le sait dans le spectacle, et en particulier dans le théâtre et dans une partie de la musique. On a un public qui n'est pas forcément tout jeune, et donc c'est important aussi de savoir le renouveler. Et moi, je trouve qu'ils savent vraiment nous proposer des rendez-vous qui sont à la fois exceptionnels, hein, parce qu'il y a vraiment des choses magnifiques qui ont été jouées depuis le début de saison, mais aussi voilà, nous remettre en question, nous bousculer un petit peu. C'est vraiment un théâtre qui est à la fois un théâtre de proximité, un théâtre de quartier. Vous voyez, quand moi vous prenez de la place de la Croix-Rousse jusqu'au théâtre de la Croix-Rousse, vous avez cette grande rue de la Croix-Rousse, hein. Oui, c'est un peu logique, vous allez me dire. Et là, vous avez une sorte de transhumance, et vous savez reconnaître les gens devant vous qui vont au théâtre, parce qu'il y a une manière de marcher, de se préparer, je trouve, à aller aussi voir un spectacle. Donc, je trouve qu'ils ont un bon public, c'est très agréable aussi, comme ça. Il faut, voilà. Donc, si vous connaissez pas ce théâtre, allez-y, c'est très agréable. Il y a aussi des petits tarifs, donc ça peut valoir le coup. Et puis, c'est aussi un moment pour y aller en famille, et puis un moment pour appréhender avec les gosses ce que c'est aussi que le théâtre, le spectacle. Et je trouve que c'est vraiment un rendez-vous que la cordonnerie nous propose depuis 2 ans et qui permet vraiment aussi cet échange intergénérationnel, et je trouve ça super. Il y a même un bouquin qui est sorti d'ailleurs aussi sur Blanche-Neige. Voilà, il y a un petit coin, une petite tas de librairies au sein de la Croix-Rousse pour ce spectacle, voilà, qui permet encore de continuer à vivre le spectacle après coup. Voilà, Hansel et Gretel aux têtes de la Croix-Rousse.
Ben, je sais pas, je touche vite fait deux petits mots juste sur. Et ben, je voulais juste vous parler vite fait de la censure qui a eu lieu à Cuba sur un film qui causait de la censure de l'homosexualité à Cuba. Voilà, donc c'était dans le cadre du festival de cinéma latino-américain de la Havane qui a ouvert ses portes jeudi dernier et devait être diffusé Santa y Andrés, un film traitant de la censure de l'homosexualité des artistes contestataires tels que le poète gay Delphine Pratt, qui dans les années 70 avait pareil été on va dire censuré. Et donc, ce que je voulais quand même vite fait donner, c'est le mot du directeur de l'Institut cubain des arts et de l'industrie cinématographique qui a décidé de retirer ce film de la programmation parce que pour lui, il s'agit d'une question de principe. Le film présente une image de la révolution qu'il a réduit à une expression d'intolérance et de violence contre la culture et fait un usage irresponsable de nos symboles patriotiques et des références inacceptables envers le camarade fidèle. Et ben voilà, donc une pensée pour toutes celles et ceux qu'on essaie toujours de faire taire il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans et encore aujourd'hui, que ce soit à Cuba ou ailleurs, la censure a encore de beaux jours devant elle parce que on peut finalement se dire que tous ces pro-vie, etc. en France sont de la même veine. Voilà.
Eh ben, on va se quitter pour ce Canu Info du jeudi 15 décembre. J'imagine qu'on pourra te retrouver dimanche dans la causerie. Hein,
oui, allez, un peu d'autopromo. Bah, écoute, non, mais parce que, alors, dimanche, ouais, en plus, on reçoit Georges, notre ami astro.
Eh oui, ça, c'est super, je crois qu'il
est. Bah ouais, celui qui nous parle des étoiles, etc., ouais. etc. Et là, on fait la deuxième partie des grands et des grandes personnes et personnages, bah, du monde, de l'os. Je trouve plus mes mots, de l'observation du ciel et tout ça et tout ça. Donc c'est dimanche de 22h à 23h sur Radio Cadu, la causerie.
Eh bien, merci pour l'accueil. On se retrouvera avec Laurent la semaine prochaine. Il devrait être rentré de ses vacances.
Bon, sinon je serai là. Je serai toujours
super,
là pour toi.
Super. Bon allez, bonne soirée à tous.
Bonne soirée, ciao.
D'abord ces vieux qu'on dit leur opinion pour nous faire la leçon, dire ce qui est bon Dieu de leurs millions. Une puissance politique qui se place à ses pions.